lien entre le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement d'ordre. Essayez de mieux comprendre selon l'ordre de la sagesse de Dieu ce que représente le sacrement d'ordre dans l'intention même de Jésus législateur. Alors, avant de continuer, il y a une question là, je présume, je la lis tout de suite. Vous avez dit au cours, nous ne sommes pas sauvés d'abord par la parole, mais par les sacrements. Oui, par les sacrements, par la croix. Et aussi, ce ne sont pas les sacrements qui nous sauvent, mais c'est Jésus crucifié, c'est bien évident. C'est Jésus crucifié, ce n'est pas les sacrements. Mais nous ne sommes pas sauvés d'abord par la parole, c'est-à-dire que vous comprenez dans l'ensemble du cours. Hein. Au point de départ, nous avons essayé de comprendre la distinction entre ce que représente la parole et le geste. Et je vous avais dit, on a beaucoup développé tout le point de vue de la parole, on a très peu développé le point de vue du geste. Ce n'est que la philosophie contemporaine qui revient beaucoup à la philosophie du corps et à la question du geste, à votre image. Mais il faut bien voir que la philosophie traditionnelle n'avait pas beaucoup développé toute la question du geste. Et par le fait même, toute la théologie des sacrements était restée un tout petit peu en arrière. Le point de vue de la parole était beaucoup plus développé. Je crois que c'est un des aspects sur lequel nous devons être très attentifs aujourd'hui, c'est de bien comprendre la différence qui existe entre la parole et le geste, et comprendre comment Dieu, dans sa sagesse, dans la grande vision de l'économie divine, Dieu se sert de la parole de l'homme pour nous enseigner, et Dieu se sert des gestes de l'homme pour nous communiquer sa grâce. Et il y a toujours ce parallélisme qu'il faut faire, non pas en opposant l'un à l'autre, en les distinguant et en voyant la complémentarité. Il y a une complémentarité entre la parole et le geste. Constamment. Qui est du reste très différente selon les personnes. Beaucoup par le geste, des gens qui parlent beaucoup moins par le geste. Il y a des différences entre les deux, c'est pas tout à fait la même chose. On voit très bien qu'il y a quelque chose d'intéressant à saisir. Les sacrements sont les gestes du Christ. Alors, je voulais vous montrer, en disant ça, nous ne sommes pas sauvés d'abord, premièrement par la parole. La parole est liée à la foi. Vous voyez tout de suite l'argumentation qu'on pourrait dire. La foi justifie. C'est bien la parole qui sauve. C'est très vrai. C'est ce qui est commun entre l'ancienne alliance et la nouvelle. Et la foi justifie. Et la foi est liée à la parole. Cependant, dans la nouvelle alliance, le sacrement par excellence, qui donne le sens à toute la révélation, c'est l'Eucharistie. Et l'Eucharistie, ainsi que le baptême, est source de grâce pour nous. Le baptême, source fondamentale, et l'Eucharistie, source ultime, viatique, source ultime, source dernière. Mais il faut comprendre que la parole, ainsi que les sacrements, ne nous sont que dans la mesure où ils sont unis à l'unique source de salut, Jésus crucifié. Jésus nous dit de façon très nette, hein, vous scrutez l'Écriture et vous croyez y trouver la vie. C'est dans Saint Jean. Ce qui nous montre bien que l'Écriture et la parole, quand ils ne sont pas liés à leur source, c'est-à-dire à Jésus, et à Jésus crucifié, ils ne sont pas capables de nous sauver. Et les sacrements nous sauvent. que dans la mesure où ils sont liés à la source. Donc il faut bien saisir le lien, si vous voulez, l'ordre de sagesse divine. La source de tout.
Ce que la théologie classique, celle de Saint Thomas, nous dit que le sacerdoce,
pouvoir instrumental, pouvoir ministériel. Le sacerdoce, Jésus a voulu que le sacerdoce soit lié à l'Eucharistie. Je vous disais la dernière fois, il n'y a pas de lien de nécessité. C'est un lien voulu par Jésus comme législateur, et c'est important de le souligner. À ce point de vue-là, les protestants nous servent en portée Thérèse SSC. Il faut toujours qu'il y en ait pour qu'on comprenne mieux la vérité. Et comprendre mieux la vérité, c'est d'entrer davantage dans la sagesse divine et dans l'économie divine. Il n'y a pas de lien de nécessité entre le lien de nécessité en soi, selon l'ordre de nature, entre l'Eucharistie et le point de vue du sacerdoce ministériel. Autrement dit, je ne peux pas, à partir de l'Eucharistie, déduire le sacerdoce. Parce que c'est ça un lien de nécessité. Je saisis l'Eucharistie comme l'effet du sacerdoce, je dois pouvoir donc, à partir de l'effet, affirmer la cause. Quand il y a un lien de nécessité, c'est ce qu'on peut faire. Mais un lien de cause percée, un lien de cause, donc de cause nécessaire. Je pourrais, à partir de l'Eucharistie, puisque l'Eucharistie existe, il y a la nécessité de poser le sacerdoce ministériel. Je vois que je ne peux pas dire ça, parce que de fait, le mystère de l'Eucharistie aurait pu se réaliser autrement. Il y aurait pu y avoir, comme dans l'Ancien Testament, puisque l'Eucharistie est préfigurée par la manne, et que la manne n'était pas donnée par le sacerdoce lévitique. Besoin de l'homme pour réaliser le caractère. Dieu a voulu se servir de l'homme pour réaliser le caractère. Et c'est une volonté de Dieu, selon l'homme de sa sagesse, une volonté du législateur divin, mais ce n'est pas nécessaire, inscrit dans la nécessité de caractère. Je crois que c'est important, au point de vue théologique, de bien saisir là où il y a nécessité et là où il n'y a pas nécessité. Parce qu'autrement, alors, on fait des arguments qui sont complètement faux. Vous voyez, si je conçois l'Eucharistie en fonction de l'Ancien Testament, ça arrive de temps en temps qu'on peut comprendre les sacrements de l'Église uniquement en fonction de l'Ancien Testament. Et une des perspectives de la réforme. Ils ont redécouvert très fort l'Ancien Testament, et alors ils ont compris la Nouvelle Alliance en fonction de l'Ancien. Si je comprends l'Eucharistie en fonction de l'Ancien Testament, je ne verrai pas, je dirais, il n'y a pas de lien entre le sacerdoce. Il peut très bien se faire que l'Eucharistie vous est donnée directement par Dieu. L'assemblée chrétienne se rassemble, elle prie. Et du fait même qu'elle prie, le pain n'est plus du pain, et c'est la présence du Christ. Je ne précise pas autrement. En fonction de la foi de l'assemblée. Et donc, il n'y a pas un lien de nécessité entre l'Eucharistie et le point de vue du sacerdoce. De fait, Dieu a voulu, par le Christ, faire que entre l'Eucharistie et le sacerdoce, il y a un lien de nécessité. Un lien de nécessité qui ne repose pas sur la nature des choses, mais sur le bon plaisir de Dieu. Toujours deux liens de nécessité. Hein. Un lien de nécessité sur la nature des choses, et un lien de nécessité sur le bon plaisir de Dieu. Puisque Dieu l'a voulu comme ça, il y a un lien de nécessité. L'Eucharistie ne nous sera donné qu'à travers le sacerdoce ministériel. Parce que ça fait partie de la volonté explicite de Dieu. Jésus, après la scène, a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et l'Église l'a compris tout de suite comme une volonté expresse de Jésus législateur, de faire que l'Eucharistie soit le fruit d'un pouvoir que le Christ donne aux hommes, pouvoir instrumental donné aux hommes. C'est la première chose qu'on doit bien saisir. Et ceci nous permet de mieux comprendre comment le sacerdoce abondance d'amour. Je vous ai dit, commençant ce cours sur les sacrements, qu'il fallait essayer de bien comprendre que les sacrements ne peuvent se saisir que dans une économie divine de surabondance d'amour. Les sacrements ne sont pas une surloi. Les sacrements ne se comprennent pas au niveau de la justice. Ils se comprennent qu'au niveau d'une surabondance d'amour. Et je crois qu'à l'égard de chaque sacrement, il faut saisir cette surabondance d'amour. Ça me semble très très important. Parce qu'on a trop ramené les sacrements à une moralisation, donc à une justice. Et l'obligation d'assister à la messe le dimanche. Alors les gens ne voient plus que l'obligation morale. Il y a un péché, ça n'est pas là. Comprenez d'abord l'importance du sacrement. Et si vous comprenez l'importance du sacrement, vous ferez tout pour user du sacrement. Deux pédagogies totalement différentes. Il y a une pédagogie de l'impératif catégorique. Tu dois faire ça. Alors, les dents des petits-fils en sont agacées. N'est-ce pas ? Tu dois faire ça. Et alors, quand on ne voit plus que tu dois faire ça, au bout d'un certain temps, on ramène ce qui est de l'ordre de la surabondance de l'amour à un ordre de justice. Point de vue de la justice, vous pouvez le dire. Hein. Vous pouvez très bien dire l'impératif catégorique pour vos impôts. Tu dois payer tes impôts. Tu dois faire attention à telle ou telle chose qui sont de l'ordre de la justice. Et l'impératif catégorique, c'est très intéressant pour Kant hein, de comprendre ça. Ça, c'est la justice. S'il n'y avait que la justice au point de vue moral, eh bien, l'impératif catégorique serait très légitime. Mais comme la morale, c'est pas uniquement la justice, grâce à Dieu, que la morale relève de l'amour et pas premièrement la justice, l'impératif catégorique n'explique pas le point de vue éthique. Il y a autre chose. Comme le point de vue des sacrements, ce n'est pas de l'ordre de la justice, ce n'est pas de l'ordre moral, c'est du super moral, du métamoral, c'est du divin. C'est de la surabondance de l'amour. Alors ne ramenons pas les sacrements à une obligation de justice. Très mauvaise éducation. Les sacrements sont plus. Parce que les sacrements doivent éveiller en nous un appel d'amour. Puisque c'est un don, et un don de surabondance d'amour. Si c'est un don de surabondance d'amour, il ne faut pas ramener un don de surabondance d'amour à la justice. À ce moment-là, vous ne comprenez plus rien du tout à la surabondance de l'amour. Et donc, vous ne comprenez plus rien du tout à ce qu'est l'économie divine au point de vue de l'alliance chrétienne. Je souligne ça parce que de fait, c'est ce qui s'est passé. Avec tout le point de vue, si vous voulez, de la moralisation du XVIIe siècle, de l'aspect juridique et moralisation du XVIIe siècle. On a tellement moralisé, on a tellement pris le point de vue juridique qu'au bout d'un certain temps, on a ramené le point de vue des sacrements à une super loi, tout simplement. Et alors à ce moment-là, on ne comprend plus. C'est pour ça que je crois que si on reprend un traité des sacrements au point de vue théologique, on doit essayer de comprendre que nous sommes en présence non plus d'un point de vue de justice, mais d'un point de vue de surabondance d'amour. Et c'est ce que je souligne exprès en montrant qu'entre l'Eucharistie et le sacerdoce sacramentel, le sacerdoce ministériel, il n'y a pas de lien de nécessité. S'il n'y a pas de lien de nécessité, il faut donc faire appel à un bon plaisir. Il faut donc faire appel à un bon plaisir du législateur. c'est que le Christ, comme législateur, a voulu ce lien. C'est lui qui l'a voulu. Et il l'a voulu dans une surabondance d'amour. Pour montrer combien il prenait l'homme dans son amitié. Vous n'êtes plus des serviteurs, mais vous êtes des amis. En voulant que l'homme coopère à une œuvre de surabondance d'amour. C'est au fond la confiance qu'il fait dans l'homme. Et nous allons voir progressivement et de plus en plus. Et ça, je crois que c'est très très important, parce que ça fait entrer dans cette alliance chrétienne. Parce qu'il aurait pu s'en passer. C'est bien évident. Dans l'Ancien Testament, il s'en est passé. Et là, nous touchons, vous voyez ce que dit saint Thomas lorsqu'il souligne que l'alliance chrétienne implique une multiplication d'instruments pour que la miséricorde aille plus loin. L'économie de la nouvelle alliance ne peut pas se ramener à l'économie de l'ancienne alliance parce que c'est une économie de surabondance d'amour qui multiplie les instruments. Si on multiplie les instruments, c'est pour que de fait la miséricorde surabonde. Et là, nous le voyons très très nettement. C'est pour que la miséricorde de Dieu surabonde par rapport à l'instrument dont Dieu se sert, un homme, dont il investit d'une autorité nouvelle, l'autorité sacerdotale, qui est une autorité divine, qui est l'autorité même du Christ, pour que un homme investi de cette autorité agisse in persona Christi, c'est-à-dire agisse dans la personne du Christ et réalise l'œuvre propre de ce législateur qui est le Christ, ce nouveau législateur, qui est un législateur dans l'ordre de l'alliance d'amour. Là, nous touchons donc, premièrement, cette exigence de surabondance d'amour. Deuxièmement, toujours dans la même ligne, quand nous disons d'une façon classique que le sacerdoce ministériel implique un pouvoir instrumental, je souligne que ce pouvoir instrumental n'est pas simplement un pouvoir instrumental. Que le prêtre soit un vivant, qu'il n'agisse pas tout simplement de façon automatique, comme un instrument, comme un robinet. Ouvrez le robinet, vous savez. Si le prêtre agissait uniquement en instrument, le sacerdoce ministériel serait une fonction. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être attentif à ça, parce qu'il y a eu toute une série d'articles, d'études, de dire le prêtre, c'est un fonctionnaire, c'est tout. Vous savez, il y a eu un moment donné, on a dit, pourquoi pas ordonner un prêtre pour 10 ans. Au bout de 10 ans, il demandera s'il continuera dans 30 ans. Il aura 10 ans. Et le prêtre va être autre chose. Ça ne voyait plus que l'aspect fonctionnel. L'aspect de la fonction. Le prêtre, c'est uniquement un aspect fonctionnel. Il faut comprendre que le sacerdoce du Christ, ce n'est pas seulement une fonction. Qu'il y ait un aspect fonctionnel au niveau sociologique, c'est bien évident. Le prêtre réalise quelque chose de différent que les autres fidèles. Il préside les offices normalement. Ça, c'est le point de vue sociologique. C'est une procession, il est le dernier ou le premier. Quel genre de procession, d'accord ? Alors où est le premier, parce que c'est mon pasteur qui est devant, où est le dernier parce qu'il pousse le troupeau. Bon, ça c'est fonctionnel, c'est purement au niveau sociologique qu'on regarde. Si je regarde plus profondément, si j'essaie de comprendre, il y a un mystère. Tous les sacrements impliquent un mystère. Le mystère ne peut pas se ramener à un aspect fonctionnel. La fonction n'est pas un mystère. Et l'aspect sociologique n'est pas un mystère. Je peux décrire l'aspect sociologique. Que l'aspect sociologique existe, c'est bien évident, mais autre chose, il y a un mystère. Alors, il faut creuser ce mystère. Comment comprendre ce mystère ? C'est de comprendre justement que cette instrumentalité, ce pouvoir instrumental qui est donné au prêtre, qui est donné par Jésus au prêtre. Jésus communique au prêtre. On verra comment ensuite, hein, puisqu'il le communique par l'intermédiaire de l'évêque. C'est vrai. Mais le sacerdoce du prêtre n'est pas le sacerdoce de l'évêque. Le prêtre, lui, l'évêque lui-même agit en instrument. En instrument du Christ, quand il ordonne. Il agit comme instrument du Christ. C'est le sacerdoce du Christ qui est communiqué par l'évêque. Bon, ce sacerdoce du Christ communiqué à un homme prêtre, c'est bien un pouvoir instrumental. Mais ce pouvoir instrumental, il est divin. Il faut donc essayer de comprendre que ce pouvoir instrumental le relie au Christ, instrument de la très sainte Trinité. Jésus est un instrument conjoint en raison même du mystère d'incarnation. Et la grâce que le prêtre reçoit au moment du sacerdoce, c'est une grâce qui lui vient du Christ et qui l'établit instrument à la manière du Christ. Je dis bien à la manière du Christ. Et donc, l'instrumentalité du prêtre dans le pouvoir sacerdotal doit se comprendre à la lumière de l'instrumentalité du Christ. Le Christ est instrument conjoint dans son humanité du mystère du Verbe de Dieu. Et la grâce que le Christ possède, la plénitude de grâce, est un effet direct du mystère de l'union hypostatique. Effet direct de ce mystère de l'union hypostatique. Il y a un lien entre le sacerdoce du Christ et le mystère de l'union hypostatique. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est pour ça que c'est un sacerdoce d'amour et donc un sacerdoce de vie. C'est pas seulement une fonction. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. La grâce du Christ est une grâce qui provient directement de son lien avec le Père. C'est parce qu'il est Fils bien-aimé, en qui le Père habite toute sa présence. Cette instrumentalité provient, cette instrumentalité du sacerdoce ministériel, unit le prêtre à Jésus. L'enseignement que le Christ a donné. Il aurait pu faire que la rédemption se réalise à travers le travail de Jésus artisan. Mais il a voulu que ce soit à travers le mystère de la croix. Et c'est le mystère de la croix qui fait comprendre Jésus sauveur, source de toute grâce et source de tous les sacrements. À la croix, il est à la fois victime et prêtre, parce que c'est un sacerdoce d'amour. Parce que c'est un sacerdoce d'amour, ce sacerdoce réclame, exige un réalisme tout à fait particulier. Le sacerdoce lévitique de l'Ancien Testament n'exigeait pas que le prêtre soit lui-même victime. Le prêtre prenait tout simplement des animaux, des taureaux, des boucs, des agneaux, comme offrande. Parce que ce sacerdoce était un sacerdoce religieux. Et donc, il pouvait se réaliser selon ce mode symbolique. Et que le prêtre, en offrant les animaux, exprimait le lien de dépendance radicale de l'homme à l'égard de Dieu. C'était exprimé symboliquement, selon une liturgie. La liturgie, elle est premièrement religieuse, elle relève en premier lieu de ces liens de la créature à l'égard du Créateur. La liturgie de l'Ancien Testament. Et au cœur de la liturgie de l'Ancien Testament, il y a le sacrifice. Lisez le livre du Lévitique, qui montre tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Et tous ces sacrifices, regardez bien, se comprennent dans la lumière de la vertu religieuse. Donc, c'est vraiment... Le sacerdoce lévitique est un sacerdoce religieux. Ce qui caractérise le sacerdoce du Christ, c'est d'être le sacerdoce du Fils bien-aimé. Ce n'est donc plus le sacerdoce de la créature comme telle, c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. C'est donc un sacerdoce d'amour. C'est un sacerdoce qui se réalise au niveau de la contemplation. Premièrement, au niveau de l'adoration. La vertu de religion a comme acte premier l'adoration. Tandis que le sacerdoce du Christ est un sacerdoce qui est premièrement au niveau de la contemplation et de l'amour. Il assume la vertu de religion, c'est bien évident, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Mais la vertu de religion est transformée dans son exercice par le point de vue de l'amour et par le point de vue de la contemplation. Et c'est la même chose pour toute la liturgie chrétienne. La liturgie chrétienne, en tant qu'elle est chrétienne, est une liturgie qui est liée à l'Eucharistie et qui est liée au sacerdoce du Christ. Et qui est liée donc à la croix. Et c'est pour ça que la liturgie chrétienne ne peut se comprendre que dans une lumière contemplative et d'amour. C'est pour ça que la liturgie chrétienne peut prendre un caractère d'une beaucoup plus grande simplicité que la liturgie de l'Ancien Testament. La liturgie de l'Ancien Testament, comme toujours la vertu de religion, demande une espèce de grandeur, quelque chose de magnanime. Quand vous regardez, parce que c'est un des lieux où on saisit le mieux, ce que c'est que la liturgie de l'Ancien Testament, c'est la consécration du temple par Salomon. C'est prodigieux. C'est une consécration, c'est quelque chose à côté de Salomon. C'est quelque chose de prodigieux, la consécration du temple. Et la fête de la dédicace rappelait cette consécration. Et la fête de dédicace prenait alors cette ampleur, parce que la consécration du temple, avec Salomon, était quelque chose d'unique. La liturgie chrétienne a un mode de l'amour intériorise et simplifie. Tandis que l'attitude religieuse n'est pas premièrement une attitude de simplicité. Tandis que l'amour est une attitude de simplicité. Et c'est pour ça que la liturgie chrétienne, parce qu'elle vient de l'amour et de la contemplation, elle doit avoir un mode d'extrême simplicité. Et plus elle est contemplative, plus elle est justement simple. C'est très vrai qu'il y a toujours un tout petit peu de conceptions liturgiques qui proviennent de la vertu de religion, avec toujours un tout petit peu la nostalgie de l'Ancien Testament. C'est bien. Parce que dit le père Feuillet, que sans doute l'Épître aux Hébreux a été écrite pour ces prêtres chrétiens qui avaient la nostalgie de l'Ancien Testament. Ils avaient envie de retourner à l'Ancien Testament, parce que la liturgie était tellement plus belle. Quand vous regardez la Pâque ancienne et que vous regardez l'Eucharistie, la Pâque ancienne, c'est quand même bien. Il fallait beaucoup plus de cuisiner, c'était quelque chose de bien. Oh, il y avait quelque chose de beaucoup plus magnifique, il y avait une ampleur, si vous voulez, de la Pâque ancienne. Quand vous regardez l'Eucharistie, c'est vrai, c'est tout à fait différent. C'est l'intériorité qui prime. Et de l'autre côté, c'est le point de vue de la magnificence. C'est la magnificence qui commande la vertu de religion. C'est très important de comprendre ça. Je crois, il y a une tentation permanente dans l'Église catholique d'un retour à une liturgie avant tout et premièrement religieuse. Et il y a la même tentation du côté du sacerdoce. Il y a une tentation de retourner à un sacerdoce religieux. Ça, ce serait très intéressant de lire toute l'école française là-dessus. C'est très curieux. C'est l'école française, il y a des choses très belles, très grandes. Mais c'est le sacerdoce religieux. Et quelle est la conséquence d'un sacerdoce religieux? C'est la laïcisation du religieux dans tant temps la fonction. Et ça, nous assistons à ça aujourd'hui. Et donc, nous devons essayer de reprendre le sens profond du sacerdoce chrétien, qui n'est pas premièrement un sacerdoce religieux, mais qui est un sacerdoce d'amour. C'est le sacerdoce du Fils bien-aimé à l'égard du Père, qui assume toute attitude religieuse, mais qui la dépasse, et qui lui donne un mode d'intériorité beaucoup plus grand. Comprenez. Le sacerdoce lévitique, sacerdoce religieux, ça fait tout le temps y revenir à l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament nous aide à mieux comprendre le Nouveau Testament, non pas du tout en prolongeant l'Ancien Testament, mais en comprenant que c'est tout autre, que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Le passage de la Pâque à la scène nous fait comprendre cela. Et entre deux, il y a le lavement des pieds, ce qui n'était pas tout à fait prévu dans la grande liturgie de l'Ancien Testament. Le lavement des pieds, c'est quelque chose qui est familial et qui nous fait comprendre le caractère d'intériorité du mystère de la scène, comparativement à la Pâque. Il y a là un passage qui est important, il y a un geste. Le geste de l'esclave. Ça peut se comprendre à l'intérieur de la famille, ça ne peut pas se comprendre dans la grandeur du sacerdoce lévitique. Et dans la grandeur du sacerdoce de l'Ancien Testament. Sacerdoce religieux. Dans le sacerdoce religieux, donc, la victime peut être autre que le prêtre, parce que son sacrifice est un sacrifice religieux. Dans la nouvelle alliance, parce que c'est un sacerdoce d'amour, l'amour réclame un réalisme tout à fait particulier, qui est le réalisme de l'amour. Et c'est pour ça qu'il faut geste symbolique soit comme absorbé, je ne dis pas résorbé parce qu'il reste toujours, il y a un symbolisme des sacrements. Le symbolisme des sacrements est tout entier ordonné à la réalité profonde de la croix. Pas beaucoup de symbolisme de la croix. Réalisme de l'amour. Et le réalisme de l'amour fait que le prêtre et la victime sont un. Le réalisme du geste du prêtre se traduit dans ce fait que le prêtre et la victime sont un, dans l'ordre de l'amour. Exprimé, préfiguré par la parole de Dieu d'une façon si étonnante dans le sacrifice d'Élie. Que le feu du ciel brûle la victime et l'autel. Il faut que tout soit brûlé par l'amour. Il y a ça dans le mystère de la croix. Or, la scène donne symboliquement, selon un symbolisme divin, le mystère de la croix. Et le prêtre, ministre du Christ, ministre de ce sacerdoce d'amour, doit agir en instrument. Un instrument lié dans un lien d'amour. Il n'est plus mes serviteurs, mais mes donc que le prêtre instrument du Christ dans le mystère de l'Eucharistie soit aussi l'ami. L'ami n'est pas un fonctionnaire. Dans l'amitié, il n'y a plus de fonction. C'est une question de vie et de secret de vie, d'unité de vie. Il faut donc que cette instrumentalité, ce pouvoir instrumental, s'exerce non plus seulement comme un pouvoir instrumental, mais qu'il s'exerce divinement dans un lien d'amitié, dans un lien d'amour. Et qu'il y ait ce lien d'amour qui se réalise pleinement et totalement. Autrement, on ne comprend pas ce qui caractérise le sacerdoce du Nouveau Testament avec le sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique vient d'en bas, comme toujours l'attitude religieuse. Et le sacerdoce chrétien vient d'en haut, parce que c'est le sacerdoce du Fils bien-aimé. Alors, ceci nous permet de comprendre comment le prêtre agit in persona Christi. Ceci ne peut pas se comprendre au niveau instrumental. Il se comprend au niveau amitié. L'ami agit in persona par rapport à son ami. Il agit en lien substantiel avec son ami. C'est un lien personnel. Pas un lien au niveau de la fonction. C'est un lien personnel. C'est pour ça qu'il agit in persona Christi, dans la personne du Christ. Parce que justement, son pouvoir instrumental est un pouvoir instrumental divin qui le lie à l'acte même du Christ, grand prêtre comme fils bien-aimé, grand prêtre qui s'offre lui-même. Jésus à la croix agit, j'allais dire, comprenez bien, in persona Patris. Il agit dans la personne du Père. Père et moi, nous sommes un. Il agit comme l'envoyé du Père. Donc on peut dire in persona Patris. Je remonte à la source. Il agit donc avec toute l'autorité du Père. Et c'est pour ça que le sacerdoce du Fils est paternel. Jésus à la croix est source de vie nouvelle, il est Père. Sens très fort. S'il n'était qu'instrument, il ne serait pas Père. Il agit vraiment avec toute l'autorité du Père. Toute une autorité d'amour, de miséricorde, une autorité de lumière. Et puisque le pouvoir sacerdotal, sacramentel, unit le prêtre au Christ, in persona Christi, vous comprenez comment le sacrement du sacerdoce donne au prêtre une autorité paternelle. Ce que toute la tradition avait compris. C'est au fond très récent qu'on ne veut plus appeler le prêtre père. On oublie à ce moment-là qu'il agit in persona Christi. Et c'est pour ça que Saint-Père insiste tellement. Dans sa lettre au prêtre, il avait tellement insisté sur ce prêtre. C'est pas simplement agir au nom d'eux, mais in persona. Parce que là, on comprend ce lien d'unité. Le prêtre, au moment de la consécration, est un avec le Christ. Le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que le Christ, le prêtre agissant, consacrant, est un avec le Christ. Il est un, non pas ontologiquement, dit que Jésus est le Père en tant que Verbe est un ontologiquement, mais dans son humanité, il n'est pas un ontologiquement avec le Père, mais il est un dans l'amour. Et le prêtre agissant in persona Christi dans la consécration est un sacramentellement et doit autant que possible être un au point de vue de l'amour, au point de vue de l'attention. Il agit avec l'autorité de Christ. Il agit revêtu d'autorité de Christ. Et il agit non plus seulement comme instrument, mais comme ami. Et donc dans l'unité même de cette amitié. C'est peut-être cela qui nous fait le mieux saisir ce qu'il y a de tout à fait caractéristique à ce caractère instrumental, à ce pouvoir instrumental, qui n'est pas seulement de l'ordre de l'efficacité, mais qui est de l'ordre de l'amour. Et c'est pour ça que je vous disais, il fallait comprendre bien cette analogie qu'il faut saisir entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. L'ancienne alliance se fait avec le Créateur dans la procréation. J'ai enfanté un fils de par Yahvé, la parole d'Ève. C'est Ève qui dit ça. C'est la femme qui fait comprendre l'alliance fondamentale de Dieu, du Créateur avec l'homme, dans la procréation. La nouvelle alliance se fait à la croix. C'est Jésus qui est Père. Marie, par son croix d'amour, est Mère.